Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Regard aujourd'hui sur la centralité des technologies dans les enjeux géopolitiques, leur impact sur l'horizon mondial, état des lieux de la situation, les grands acteurs, la place de l'Europe, ses fragilités, sa stratégie, ce que révèlent des forces en présence, la bataille pour la 5G, l'intelligence artificielle comme véritable outil de puissance pour le soft power autant que pour le hard power, impact économique, influence politique et culturelle, application militaire. D'aucuns affirme que la lutte entre nations pour la supériorité en matière d'intelligence artificielle pourrait causer la troisième guerre mondiale. C'est ce que nous allons voir avec notre invité qui est André Leusekroeg-Pietri, directeur de la Joint European Disruptive Initiative, un collectif européen qui ambitionne de transformer l'Europe en un leader de l'innovation de rupture à l'égal des États-Unis et de la Chine. Bonjour.
Bonjour Marie-France Chatin.
Quelques mots pour commencer, peut-être sur JEDI, la Joint European Disruptive Initiative. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'innovation de rupture ? Ce collectif européen réunit une centaine d'organismes de recherche, grands groupes et start-up. Il milite pour doter l'Europe d'une agence pour l'innovation de rupture sur le modèle de la DARPA, l'agence américaine liée au ministère de la Défense, qui est à l'origine, je le rappelle, de la création d'Internet ou du GPS, notamment. André Leusekroeg-Pietri.
Oui, on pourrait rajouter à ça SpaceX, on pourrait rajouter à ça Siri que vous utilisez sur vos téléphones mobiles, la furtivité, etc., etc. Alors JEDI, donc qui est donc cette initiative européenne. Alors aujourd'hui, c'est dans 19 pays européens, c'est plus de 3000 dirigeants technologiques. Alors comme vous le disiez, start-up, grands groupes technologiques et patrons de centres de recherche et d'universités. Et l'idée, elle est simple, elle est de constater qu'aujourd'hui, un, la technologie est absolument centrale. Non plus simplement au niveau économique, mais au niveau des relations stratégiques, géopolitiques, on en parlera, j'en suis sûr. Et d'autre part, le fait qu'il y a de plus en plus une prime au premier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la valeur se concentre, et on le voit bien avec les grandes plateformes technologiques, sur celui qui est le premier.
Le winner takes it all.
C'est le fameux winner takes it all, qui est dû au fait que, un, la mondialisation est aujourd'hui devenue une réalité, c'est-à-dire que quand on invente quelque chose, on peut très très vite le commercialiser au niveau mondial, ce qui n'était pas le cas avant. Et deuxième chose, le fait qu'on est de plus en plus dans une économie digitale fait que ces produits, souvent digitaux, souvent liés au software, se diffusent également de manière extrêmement rapide. Donc ça, c'est vraiment la grande différence par rapport à 10 ou 15 ans où le fait d'être premier était quelque chose de bien, mais n'était pas forcément fondamental. Et donc pour l'Europe, si on considère qu'on est un petit peu en retard dans beaucoup de domaines, que ce soit les semi-conducteurs, que ce soit l'espace, que ce soit le véhicule autonome, etc., etc., on n'a pas d'autre choix que de ne pas combattre les guerres d'aujourd'hui, qui dans beaucoup de cas sont un petit peu perdues, mais de se concentrer, et c'est plutôt un objectif très positif et optimiste, c'est de se concentrer sur ce qui va faire la différence demain. Et c'est tout l'objectif de JEDI, c'est de lancer des grands challenges technologiques pour s'assurer qu'en Europe, on est véritablement en avance dans tous les grands domaines qui nous intéressent.
Alors, on va bien sûr revenir sur ce qui fera la différence demain. Très rapidement, André Leusekroeg-Pietri, innovation de rupture, de quoi est-il question ?
Alors, on pense toujours, on fait toujours le raccourci innovation et digital. Mais en fait, c'est dans tous les domaines que ça concerne. C'est l'innovation de rupture dans le domaine déjà de l'environnement. On parle énormément d'environnement en ce moment. Aujourd'hui, celui qui maîtrisera le stockage énergétique, celui qui diminuera d'un très grand facteur la consommation, par exemple, des data centers, de ce qui fait aujourd'hui notre vie digitale, celui qui réduira massivement la consommation énergétique ou l'impact carbone de l'aéronautique, celui-là, il aura véritablement un avantage compétitif, mais il aura aussi un impact très positif. Sur le sujet de la santé, aujourd'hui, on est à l'aube de beaucoup de ruptures dans le domaine de la lutte contre le cancer, sur la thérapie génique. Aujourd'hui, on sent bien qu'il y a énormément de ruptures qui vont arriver très prochainement. Sur le sujet du digital, on a tout, et on parlera, j'en suis sûr, de la 5G, du fait qu'on est en train de rentrer dans un monde hyper connecté. Et ce monde hyper connecté, on n'a probablement pas encore conscience à quel point ça va changer notre manière de travailler, de communiquer, de prendre des décisions. Ça, c'est un sujet sur lequel il faudrait vraiment insister, c'est qu'aujourd'hui, notre prise de décision dans un monde complexe est de plus en plus difficile, parce qu'on le sent bien tous, et je pense que tous vos auditeurs le sentent bien, on est aujourd'hui assommés par le nombre d'informations qu'on reçoit en permanence. Comment prendre des décisions correctes? Comment penser à long terme? Et enfin, le quatrième grand sujet pour nous de rupture, c'est ce qu'on appelle les nouvelles frontières, c'est l'espace, les océans, qui sont aujourd'hui des nouvelles zones d'exploration, mais aussi des nouvelles zones de conflit.
Alors, André Lezecroux-Pietri, la Chine populaire vient de fêter ses 70 ans en grande pompe. Beaucoup y voient le marqueur d'un Occident et d'une Europe en déclin, empêtrée dans le Brexit et dans ses enjeux internes. La puissance chinoise, elle est aujourd'hui visible absolument par tous. Si Donald Trump s'est engagé il y a plusieurs mois dans une guerre commerciale avec la Chine, c'est parce que la montée en puissance chinoise inquiète même les Américains. Comment se situe aujourd'hui le rapport de force, les nouvelles technologies finalement, quels impacts sur les relations internationales et sur la conflictualité ?
Alors, je reviens, j'étais la semaine dernière à Washington, et ce qui m'a véritablement fasciné et vraiment surpris presque, c'est que à la fois des représentants de l'administration Trump actuelle, mais également des gens qui aujourd'hui sont plutôt dans l'opposition, des démocrates bontins, ont tous ce mot à la bouche qui est le mot de guerre. Il parle de war avec la Chine. Et c'est vraiment quelque chose de transpartisan. Et c'est probablement quelque chose dont on n'a pas conscience en Europe, à quel point aujourd'hui les États-Unis, notamment sur le sujet de la technologie, alors c'est sur les innovations de rupture, sur le domaine du spatial, du cyber. On a vu lors de cette parade militaire immense, notamment des drones et des planeurs qu'on appelle à hypervélocité, c'est-à-dire des nouveaux missiles qui potentiellement peuvent changer complètement la doctrine en termes de protection de nos territoires, puisqu'ils vont aller à une telle vitesse qu'aujourd'hui on ne peut pas les arrêter. Donc tout ça, c'est cette conscience qu'aujourd'hui il y a un conflit, elle est d'ailleurs reflétée par ce que dit Trump. Alors on parle beaucoup de la guerre commerciale et des tarifs douaniers, mais il y a deux autres sujets sur lesquels il appuie. Un, le sujet du rôle des sociétés d'État, et deuxième chose, le sujet de la propriété intellectuelle. Et ce sujet que la technologie est aujourd'hui centrale sur les relations géopolitiques, c'est quelque chose dont, je pense, l'Europe n'a pas encore pris entièrement la mesure. On est encore sur des sujets importants, certes, comme la lutte contre les grandes plateformes, les GAFA, comme on les appelle chez nous, mais on n'a pas pris conscience qu'aujourd'hui, ce qui se joue derrière, c'est en fait non pas juste l'avenir de nos économies, mais prend aussi l'avenir de nos modes de vie. Quand on voit à quel point la technologie a un influx sur les systèmes de vote, hein, on parlera de la cybersécurité, comment elle influe sur la manière de prendre des décisions, ça c'est tout l'enjeu de l'intelligence artificielle, comme elle influe sur presque le contrat social, la reconnaissance faciale et la manière dont la Chine utilise aujourd'hui ce qu'on appelle la notation sociale, est en train de changer complètement ce à quoi on était habitué presque il y a 200 ou 300 ans, c'est ce contrat social entre l'État et l'individu, celui-là est en train de changer. Donc si nos démocraties ne réalisent pas ça, ne s'adaptent pas et ne sont pas à nouveau en position de leader, le risque c'est que d'autres vont de plus en plus nous imposer leurs valeurs. Et ça, moi, personnellement, je m'y refuse.
Alors, on va développer, bien sûr, tout ce que vous venez d'évoquer. Vous avez comme jeté la trame à tout cela, en particulier l'Europe qui n'a pas encore pris la mesure des enjeux. Mais j'aimerais peut-être, pour commencer, André Lezecroux-Pietri, que vous nous donniez un petit peu l'état des lieux du rapport de force entre la Chine et les États-Unis. Est-ce que la superpuissance américaine, aujourd'hui, est vraiment challengée, mise en défi par la Chine, dont on peut rappeler qu'elle s'est fixée pour objectif en 2049 d'occuper la première place à l'échelle mondiale?
Alors, la Chine a compris, pour commencer par la Chine a compris qu'en fait, sur les secteurs traditionnels, il lui était en fait assez difficile de menacer le leadership, on va dire, occidental.
Même le secteur traditionnel
ce c'est l'automobile, c'est les machines-outils. On le voit bien, c'est que malgré peut-être les coûts élevés des voitures allemandes, pour caricaturer ça, elle a eu du mal à vraiment avoir des parts de marché. Donc elle a compris que la seule manière de passer devant, c'était de changer complètement les enjeux. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'elle s'engouffre sur le véhicule électrique, parce qu'elle a compris que c'était une manière de ne pas avoir une confrontation frontale, mais de penser au coup d'après. Et ça, c'est plutôt bien vu. Elle a compris que sur les sujets énergétiques, qui sont quand même le poumon de nos économies, il fallait... Et en plus, ça lui fait du bien en termes de pollution et d'enjeux sociaux qu'elle a elle-même en interne. C'était de passer à la prochaine étape. Et aujourd'hui, un tiers des capacités installées d'énergie renouvelable, c'est en Chine. 50% des nouveaux champs d'éoliennes sont installés en Chine. 95% des panneaux solaires sont créés en Chine. Et c'est ça probablement le petit drame pour les Européens. C'est que on a toujours été en avance sur ce qui serait important en termes de prise de conscience. Rappelez-vous, ça fait 40 ou 50 ans que les Verts allemands, en France, en Allemagne, en Europe, on a pris conscience qu'on n'avait qu'une planète. Le problème, c'est que c'est nos amis américains, pour caricaturer ça un petit peu, et notamment Al Gore qui a réussi cette prise de conscience mondiale avec ce fameux film là, une vérité qui dérange, et c'est les Chinois qui sont en train de ramasser la mise en le mettant en œuvre. Il faudrait pas que sur un autre sujet sur lequel à nouveau les Européens ont été en avance, lié à la technologie, qui est le sujet de la vie privée, hein, la vie privée notamment, quel est le poids de l'individu dans ce monde digital hyper connecté. En Europe, on a abouti à une réglementation qui s'appelle la RGPD, sur la protection des données. Mais qui aujourd'hui tient les discours et met en œuvre de la manière la plus offensive, et on peut même dire éhontée, parce que on sent bien que c'est pas leur valeur profonde, c'est les grandes plateformes qui, Google, Facebook en tête, depuis quelques mois, n'ont des discours que sur l'importance de la vie privée. Moi, je ne suis pas convaincu que ces grandes plateformes soient soudain devenues vertueuses, mais elles ont compris que c'est un sujet qui est important pour tout le monde. Ce qui serait fou, c'est que les Européens s'arrêtent au constat, très juste, mais ne sachent pas mettre en œuvre ce qui normalement devrait être leur ADN. Donc sur l'intelligence artificielle, sur la cybersécurité, sur l'espace, sur les semi-conducteurs, sur la 5G, qui va devenir quand même le cœur de nos sociétés de demain, il faut absolument qu'on reprenne cette vitesse et cette rapidité de mise en œuvre. Il faut pas qu'on s'arrête aux constats et aux réglementations, il faut qu'on le mette en œuvre et qu'on pense européen. Moi, je ne suis pas un européen idéologue, mais je pense que ce qui est assez fou, c'est d'entendre beaucoup de discours très européens et que la mise en œuvre, très souvent dans tous nos pays, elle est très française, allemande, belge. C'est-à-dire qu'on pense européen, mais la mise en œuvre reste encore très fragmentée. Et on voit bien dans le monde d'aujourd'hui, la fragmentation, c'est la perte assurée.
Il faut dire, André Le Scroug-Pietri, que la mise en œuvre à l'échelle européenne, elle est compliquée. Donc, l'ont bien compris. Il est presque plus facile de prendre des décisions au niveau national que de mettre les 27 ou les 28 d'accord sur une action à mettre en œuvre. C'est toute la faiblesse de l'Europe aujourd'hui.
Alors, je m'inscris en faux là-dessus et je vais vous donner un exemple concret. L'intelligence artificielle. Alors aujourd'hui, l'intelligence artificielle, en tout cas ces technologies d'aujourd'hui, c'est beaucoup ce qu'on appelle du machine learning. Et donc il faut pour ça des grandes quantités de données. Nous d'ailleurs chez JEDI, on considère que la prochaine étape de l'intelligence artificielle, ça n'aura pas forcément besoin de grandes quantités de données. Mon dernier fils qui a 16 mois, il n'a pas besoin d'un million de photos de chats pour détecter ce que c'est un chat, pour contextualiser ce qu'est un chien, etc. Donc ça va être ça la prochaine étape, et c'est celle-là sur laquelle l'Europe doit gagner. Mais aujourd'hui, on en est sur les grandes quantités de données. Ce constat, il est partagé, il est compris. Et finalement, qu'est-ce qu'on a ? On a une stratégie française de l'intelligence artificielle ? On a une stratégie allemande de l'intelligence artificielle, et étant à la fois français et allemand, je peux vous confirmer qu'il n'y a quasiment aucun contact entre ces deux stratégies. On a une stratégie belge, beaucoup de respect pour mes amis belges, mais voilà, c'est comme si moi je disais qu'il y avait une stratégie corse de l'intelligence artificielle. Enfin, on dit que c'est important d'avoir la taille critique, on dit que cette technologie est absolument critique, mais dans la mise en œuvre, on parle French IA, German IA, Belgian IA, et en Europe. Et dans 2 ans, quel va être le constat ? Et je ne veux pas être trop pessimiste là-dessus, mais on va réaliser, constater, déplorer qu'on n'a pas de licorne dans l'intelligence artificielle. La meilleure manière, on parle beaucoup aujourd'hui de créer des licornes, et beaucoup de choses positives sont faites dans ce domaine-là, mais la manière intelligente serait justement de revenir à cette Europe des projets, qui, rappelez-vous, avait quand même bien marché, et que sur ce sujet d'intelligence artificielle, qu'on n'ait pas des stratégies nationales, mais qu'on pense tout de suite européen. Pas parce qu'on veut une Europe avec un sens politique ou autre, mais parce que c'est la seule manière d'avoir une unicité de réglementation, et qui dit marché unique, dit qu'on va pouvoir avoir des entreprises de cette taille. Le problème aujourd'hui, on dit toujours que c'est un problème d'argent. Là aussi, je m'inscris en faux. Un investisseur en capital en Chine, aux États-Unis, en Europe, il a le même risque, c'est-à-dire de quasiment tout perdre quand il investit dans les sociétés technologiques. Mais quand ça marche en Chine et aux États-Unis, on a un immense marché, d'où ces valorisations. Alors, on est en train de se rendre compte que certaines sont excessives. Mais en Europe, la meilleure chose que vous pouvez obtenir, c'est un géant français, un géant allemand. Et donc, pour un investisseur, il va se dire, mon rapport entre le risque et le gain potentiel, il est beaucoup moins intéressant. Si on avait un véritable marché européen du digital, là, la chose serait totalement différente. Et ça, il faut le dire. Ça, c'est vraiment uniquement une question de volonté politique. Aujourd'hui, le marché digital, il n'existe pas. Vous avez 28 réglementations nationales, vous avez 28 CNIL, 28 agences de cybersécurité, etc., etc. Ça, c'est une question de volonté politique.
Alors, pour approfondir sur ce marché européen du digital qui n'existe pas, il est évident que la Chine et les États-Unis en jouent profondément. Je pense à l'initiative chinoise de Route de la Soie, qui se traduit aussi dans le domaine digital. On a vu, et là c'est peut-être l'occasion maintenant de parler de la 5G, je ne sais pas si on arrivera à tout dire avant la fin de la première partie de l'émission, où on voit les Italiens finalement y adhérer. Quels sont les enjeux aujourd'hui liés à cette bataille pour la 5G, André Leusekroeg-Pietri, et comment voyez-vous les choses?
Écoutez, la 5G, pour moi, me semble être un sujet absolument capital, parce que ça ne sera pas... Le nom est presque un petit peu... je m'en désole un peu, parce qu'on a l'impression que c'est une prolongation de la 3G, de la 4G qui étaient des outils de communication. La 5G va permettre de connecter à la fois énormément de capteurs dans les villes, dans les industries, etc., mais également d'avoir une garantie d'un certain débit, ce qui permettra de faire des opérations critiques, notamment dans le domaine de la santé, de la sécurité, etc. Donc ça va changer la donne, ça va devenir l'infrastructure de demain. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Il faut le voir de manière aussi stratégique qu'une infrastructure. Et aujourd'hui, on est face à un dilemme, c'est que la 5G va révolutionner l'automobile, la santé, les processus industriels. Et d'un autre côté, prendre notamment les fournisseurs d'équipements chinois pose plein de questions, et notamment le fait que ceux qui fourniront ces équipements auront accès à la donnée qui y circule. Donc aujourd'hui, il est clair que dans beaucoup de pays européens, on va utiliser ces équipements chinois pour une raison simple, parce que là aussi, on n'a pas raisonné en taille européenne. Quand vous avez 4 opérateurs aux États-Unis et que vous en avez 35 en Europe, qu'on n'a pas fait cette consolidation parce qu'on était obsédé par des règles de concurrence en Europe, forcément, les différents opérateurs ont moins de moyens de s'équiper et vont plutôt chercher un prestataire qui va leur donner 10, 20, 30% de prix en moins. Donc, on est en train d'obtenir le résultat probablement de notre manque de vision. Maintenant, on est là, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est aller le plus vite possible dans la mise en œuvre. Les Suisses ont montré l'exemple parce que eux, ils ont fait des enchères extrêmement rapides, relativement peu onéreuses pour leurs équipements. En Allemagne, absolument, c'est fascinant. Il y a eu 400 tours d'enchères et le gouvernement allemand a récupéré 6 milliards d'euros. On se pose quand même la question, à nouveau, un gouvernement qui a déjà un budget équilibré, avait-il véritablement besoin de saigner à blanc ses opérateurs? Parce que qui dit 6 milliards investis sur la 5G veut dire moins d'argent investi sur le déploiement. Et en France, c'est encore pire, on n'a toujours pas lancé nos enchères. Je veux dire, qu'est-ce qu'on attend pour mettre en œuvre? Et deuxième chose, il faut qu'on pense tout de suite au coup d'après à la 6G. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. Il faut très très vite utiliser pour que au moins nos industriels utilisent cet outil, qu'on ne soit pas... Parce que sinon le risque qu'on a, c'est qu'on va avoir des nouveaux acteurs dans la santé connectée, dans l'automobile, dans l'industrie, qui vont utiliser les nouvelles fonctionnalités apportées par la 5G et vont faire concurrence à nos acteurs existants. Donc il faut à la fois aller très vite dans la mise en œuvre et préparer le coup d'après.
Très rapidement, pour terminer cette première partie d'émission, est-ce que l'Europe a le choix par rapport à la question de la 5G?
Aujourd'hui, il est clair que... Alors, le choix, à quel titre vous voulez dire?
Eh bien, autre chose que ce qui est proposé par les Chinois?
Alors, déjà, il faudrait qu'on ait une réflexion beaucoup plus stratégique sur quelle est la conséquence d'utiliser un équipement européen ou chinois. Aujourd'hui, on a deux fournisseurs d'équipements européens qui sont aujourd'hui, en termes technologiques, encore tout à fait à la hauteur, sauf que... quand on trace les lignes, quand on prolonge les courbes, on est inquiet parce que ces deux opérateurs, Nokia et Ericsson, pour ne pas les nommer, ont aujourd'hui une capacité d'investissement en recherche et développement qui est entre un tiers et un quart de ce que va être la capacité d'investissement de Huawei. C'est-à-dire que même si aujourd'hui ils tiennent encore la route, en termes d'avance technologique, ils risquent, à coups de milliards, d'être... très très vite largué. Ça, c'est ça le véritable danger.
On poursuivra dans la deuxième partie de l'émission. André Leusekroeg-Pietri, on vous retrouve après le journal. À tout de suite.
Géopolitique. Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur la centralité des technologies dans les enjeux géopolitiques. Nous retrouvons notre invité André Lezekroug-Pietri, directeur de la Joint European Disruptive Initiative, un collectif européen qui ambitionne de transformer l'Europe en un leader de l'innovation de rupture à l'égal des États-Unis et de la Chine. Nous avons terminé la première partie de l'émission sur la question de la 5G, André Lezekroug-Pietri, avec cette question qui se pose pour l'Europe, de savoir si elle a véritablement le choix par rapport à ce que peuvent proposer les Chinois à travers Huawei. Quel est le rôle des États-Unis aujourd'hui dans cette question de la 5G et comment l'Europe se positionne précisément par rapport à Washington ?
Alors, comme vous le savez, les États-Unis mettent une pression phénoménale depuis un peu plus d'un an pour que l'Europe n'adopte pas des équipements chinois pour la 5G. D'ailleurs, menaçant, par exemple, les Anglais de ne plus partager leur renseignements, les fameux Five Eyes, cette alliance des agences de renseignement, en considérant que si ça passe par des équipements chinois, ça pourrait être en risque. Le sujet, c'est que les Européens sont dans une situation de départ très différente des Américains. Certes, ils ont encore deux fournisseurs d'équipements, mais il ne faut pas oublier que la 5G, c'est pas juste les équipements, donc l'infrastructure, mais c'est aussi ce qu'on appelle les chipsets, donc les semi-conducteurs qui sont à la base de ces équipements digitaux, et les combinés. Sur les combinés, c'est Apple, c'est Samsung, c'est Huawei qui maîtrisent, mais sur ce qu'on appelle les chipsets, les semi-conducteurs, c'est une domination américaine complète. D'ailleurs, on a vu que c'était là où les Américains avaient appuyé pour faire mal en bloquant à un moment des fournitures. Donc c'est Qualcomm, Broadcom, Intel qui aujourd'hui ont une maîtrise complète. Donc les Européens n'ont pas du tout cette même indépendance. Ce qui devrait être d'ailleurs une conséquence claire pour les Européens, c'est de mettre énormément d'efforts, pas juste sur le software, mais aussi sur le hardware. Donc c'est cette industrie du semi-conducteur qui a quelques champions en Europe, mais qui est quand même un champ de ruines depuis quelques années. Donc la situation de départ est très différente. La conclusion que moi j'en tire, c'est de dire adoptons le plus rapidement possible ces équipements, mettons-les en œuvre, n'essayons pas de remplir les trous du budget de l'État avec des licences 5G hors de prix. On a déjà fait l'erreur dans la 3G, on avait saigné les opérateurs à blanc, on a vu le résultat. Et intéressons-nous à la 6G, soyons leaders là-dessus. Je vous rappelle que l'Europe, la dernière fois qu'elle était leader sur la communication, c'était la 2G, c'était le fameux GSM. Et depuis, on a un petit peu traîné. Et à nouveau, nous, on a un esprit très positif là-dessus. Les talents sont là, les centres de recherche sont là. Ils remplissent d'ailleurs, on a énormément de Français, d'Allemands, d'Européens qui sont chez Samsung, chez Apple. Il faut leur redonner des perspectives d'inventer le monde de demain. Et si on a à nouveau cette perspective optimiste, on fera à la fois revenir des gens exceptionnels qui aujourd'hui sont à Shenzhen ou à San Francisco, et également on redonnera vraiment beaucoup de souffle à notre industrie européenne. C'est ça qu'il faut faire, et c'est à notre portée.
Alors on a beaucoup parlé des principaux acteurs, États-Unis, Chine, l'Europe. André Lezekroug-Pietri, est-ce qu'il n'y a pas pour l'Europe des alliances à trouver quelque part dans le monde? Je pense aux Canadiens qui ont une stratégie assez ambitieuse et qui consacrent des investissements significatifs?
Alors, je crois que l'exemple canadien, il est déjà à méditer comme exemple. Qu'ont fait les Canadiens? Ils ont fait des priorités claires. Peut-être aussi une petite différence avec l'Europe, c'est-à-dire ils se sont concentrés sur quelques sujets, l'intelligence artificielle en étant une. La deuxième chose, ils se sont concentrés sur retenir leurs talents et capter les meilleurs talents du monde entier. Et c'est comme ça qu'en 2-3 années, une ville comme Montréal, par exemple, est devenue vraiment un centre d'attractivité des talents du monde entier. Ensuite, je pense qu'il y a quand même une grande différence entre un Canada, qui est certes un grand pays en termes de géographique, mais assez petit en termes de population, et l'Europe. Le Canada, peut-être un peu à l'instar d'Israël ou de Singapour, pour elle, son marché, c'est le marché mondial tout de suite. Pour les Européens, ils ont un marché intérieur qui est une énorme chance, mais comme je vous le disais tout à l'heure, n'est pas du tout mise en œuvre. Aujourd'hui, le marché des capitaux demandé aux banques ou bien le marché digital n'existe pas. Et c'est pour ça que j'ai de grands espoirs dans cette nouvelle Commission européenne. J'espère que c'est un des sujets sur lesquels la Commission va se pencher et va surtout changer son référentiel en termes temporels. Une Europe qui produit des résultats en termes d'années, le GDPR 5 ans, pour le mettre en œuvre, il faut à nouveau penser en jours et en semaines. On est dans un monde où aujourd'hui, c'est plus forcément uniquement la taille et l'argent qui comptent, c'est la rapidité de mise en œuvre. Et ça, c'est à notre portée, ça ne dépend pas des budgets, des critères de Maastricht ou d'autres. C'est véritablement une rapidité de mise en œuvre. Et je dirais la deuxième chose, c'est cette capacité d'expérimentation. Et si vous me permettez un dernier point, c'est ce qui m'inquiète, moi, sur la Chine, où j'ai passé 10 ans, qui est un pays que j'admire pour ses résultats économiques, qui est de moins en moins proche de mes valeurs, parce qu'on voit bien que ce mythe que tout le monde deviendrait une démocratie s'est effondré depuis longtemps, mais c'est un pays qui a passé son temps à expérimenter depuis 40 ans. Il lance très vite, si ça marche, à l'image de Shenzhen, qui était un petit port de pêche il y a 30 ans, qui est aujourd'hui la capitale mondiale du hardware, on pousse. Quand ça marche pas, on arrête. C'est ça que les Européens ils doivent reprendre. Ils doivent reprendre cette capacité d'expérimenter. Et donc tous ces mécanismes, c'est ce qu'on appelle à Bruxelles les financial engagement rules, donc les mécanismes de financement, cette volonté de faire plaisir aux 28 pays en permanence pour chaque décision. Il faut avoir le courage sur certains aspects, et la technologie en est un, il faut reprendre cette ambition de rupture, d'expérimentation. Et c'est maintenant que ça se joue.
Alors, par rapport à tout ce que vous venez d'évoquer, l'accélération du temps, la nécessité d'une plus grande rapidité de mise en œuvre. Est-ce que vous sentez, André Lezecourt-Pietri, l'Europe à même de réagir? On a compris qu'il y avait urgence. On parlera de l'Afrique parce que là aussi, c'est un continent où les cyber-impérialismes sont particulièrement flagrants. L'Europe, elle est en train de disparaître de l'Afrique en termes digital.
Alors, je pense pas que l'Europe disparaisse de l'Afrique, mais ce qui est sûr, c'est que, on a beaucoup parlé des noms, des portefeuilles des commissaires européens, il y aurait une chose à faire d'urgence, et pas juste en termes de noms, mais qu'on y croit profondément, que l'Afrique soit de plus en plus vue comme un partenariat, et non plus comme une zone de développement. Donc déjà, ce mot développement, il faut, d'après moi, le bannir. Et la deuxième chose, je vous parlais d'expérimentation et de ce que les anglo-saxons appellent le leapfrogging, c'est-à-dire de pas s'intéresser aux batailles d'aujourd'hui, mais de s'intéresser au coup d'après. Mais l'Afrique est aujourd'hui, sur le digital, en train de nous montrer ça. Ils ont, dans beaucoup de pays, sauté l'étape des ce qu'on appelle des infrastructures filaires dans le télécom. Ils sont tout de suite passés au mobile. On a, à notre porte, un immense continent dont une jeunesse a envie d'utiliser ces outils digitaux. Qu'est-ce qu'on voit effectivement? C'est qu'aujourd'hui, la Chine fait des partenariats avec quelques pays africains pour également améliorer la qualité de ses algorithmes, hein, pour qu'ils soient pas juste adaptés à une population chinoise, mais que ça soit beaucoup plus adapté à une grande diversité de populations. C'est ça qu'on devrait faire. Sur ce marché digital africain, comment est-ce que on trouve un réel partenariat pour que l'Europe, en plus de ses 300, 400 millions de personnes, s'ouvre ce continent? À nouveau, il faut pas parler de l'Afrique, d'après moi, très modestement, comme d'une stratégie unique. Il faut prendre des projets. Quel est le meilleur projet que un projet qui est tourné vers le futur, qui est un sujet qui est important pour la jeunesse africaine et qui est surtout un sujet où on n'a pas les traditionnels mécanismes où on parle d'investissement dans les infrastructures lourdes qui demandent des processus politiques qui, comme on le sait, sont toujours un peu plus compliqués à mettre en œuvre. Ça serait un projet extraordinaire. Il y a quelques start-up européennes, d'ailleurs créées par des Européens, entre autres, qui ont plutôt bien réussi en Afrique en s'associant avec des équipes africaines. On devrait le pousser beaucoup plus. Mais là-dessus aussi, il faut une grande coordination. Quand je vois que la chancelière allemande fait sa petite tournée en Afrique il y a un mois, que nous-mêmes, notre stratégie, alors il faut que l'Europe soit une réalité, pas juste à Bruxelles, en termes de stratégie africaine, mais il faut que ça soit une réalité sur le terrain. Aujourd'hui, je vois plutôt les avions présidentiels partir indépendamment et non pas de manière conjointe.
Alors, ce que j'entends, au-delà de ce que vous venez de dire, ou en complément, André Lezecourt-Pietri, c'est que la Chine est d'une grande efficacité. Vous êtes optimiste pour l'Europe?
Alors, je ne sais pas si le mot efficacité s'applique à la Chine. Pour y avoir passé un peu de temps, il y a cette fameuse phrase qui dit « Vous y passez une semaine en Chine, vous écrivez un livre, vous y passez plusieurs années, vous savez plus trop quoi écrire parce que c'est un pays en fait très divers. Ce qui est vrai à Pékin n'est pas vrai à Shanghai. » Donc, je me méfierais de donner des grandes leçons sur la Chine. Je ne sais pas si c'est très efficace. Mais la deuxième chose qui m'inquiète, au-delà de ce côté expérimentation, c'est que la Chine a cette capacité à penser long terme. Et aujourd'hui, dans ce monde justement qui s'accélère, où on voit que chaque jour nous apporte son lot de ruptures, la capacité de penser long terme, à construire des infrastructures, et je pense à deux, les infrastructures physiques, hein, on pense à la 5G à nouveau, ou les infrastructures humaines, hein, l'investissement dans l'innovation et dans l'éducation, sont des sujets que, aujourd'hui, ce sont les pays autoritaires, comme la Chine, comme Singapour, de manière un peu plus soft, maîtrisent. L'Europe doit impérativement, et j'ai pas de solution miracle là-dessus, retrouver une capacité à penser long terme. Et c'est, pour moi, l'enjeu majeur de nos démocraties. Si on veut que notre système perdure, il faut qu'on retrouve dans nos processus électoraux, dans nos processus de décision politique, cette capacité à la fois de gérer les urgences court terme et cette capacité de long terme. Nous, ce qu'on a proposé avec cette initiative qui est centrée et complètement focalisée sur l'innovation de rupture, c'est de dire, il faut probablement qu'on trouve un nouvel outil politique qui est un engagement des citoyens, et aujourd'hui, JEDI, c'est la société civile et ce qu'on appelle l'écosystème technologique qui se mobilise, qui n'est pas là pour défendre des intérêts privés, mais qui est là pour s'engager pour le bien commun. Et quand vous réalisez à quel point sur les sujets comme l'environnement, on l'a vu dans les dernières semaines, est un sujet qui mobilise, ça c'est une très très belle histoire. Mais c'est vrai que ça fait que le politique, on va dire le régalien, comme on dit en France, doit apprendre à partager certaines décisions, parce que s'il les concentre, il sera toujours en retard d'une guerre et il n'aura pas forcément cette capacité à mettre en œuvre. Il faut qu'on réinvente ce que les Européens appellent avec cet horrible nom qui est la subsidiarité. Pour moi, c'est ce que j'appelle la décentralisation condescendante. Non, le monde d'aujourd'hui, c'est l'inverse. Et on le voit dans les entreprises, on le voit dans les start-up. Il faut laisser à ceux sur le terrain, et d'ailleurs on le voit dans le militaire également, il faut laisser à ceux qui sont sur le terrain un maximum de champs d'expérimentation, et il faut que la puissance publique, le leadership, se concentre sur où veut-on aller. C'est cette trajectoire qu'il faut qu'on fixe. Aujourd'hui, l'Europe doit retrouver ce projet, et pour moi, le sujet de comment est-ce qu'on devient leader en technologie, parce que c'est un élément essentiel pour que nos valeurs de débats publics, d'élections libres, de vie privée soient respectées. Ça, c'est un des projets sur lesquels il faut absolument qu'on s'engage.
En fait, vous appelez là, André Lezegroucq-Pietri, à ce que les États reprennent le contrôle et jouent pleinement leur rôle.
L'essentiel, c'est que il y a un mythe, notamment en France, que les entrepreneurs ou les capitaux risqueurs, et j'en ai été un moi-même pendant une douzaine d'années, sont ceux qui vont inventer le monde de demain et les innovations de demain. Les entrepreneurs changent beaucoup de choses, mais aucun entrepreneur, ni aucune banque, n'investit sur des sujets totalement risqués. S'il n'y a pas une capacité de devenir rentable à 3-4 ans ou d'éventuellement vendre sa société à un acteur plus important à une échéance plus ou moins court ou moyen terme, personne ne va y mettre de l'argent, et c'est normal, c'est pas le mandat d'entreprise. Non, c'est là où justement l'État doit se concentrer sur tout ce qui est trop risqué ou trop long terme pour le secteur privé. L'État doit donner cette vision à 5-10 ans. Et moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, les gagnants de demain seront ceux qui auront la capacité à évidemment gérer les urgences, mais à se projeter sur ce qui sera important, non pas à 20 ans, ça c'est de la science-fiction, ou 30 ans, mais ce qui sera important dans 5 ou 10 ans. Et c'est pour ça que on essaye véritablement, dans le cadre de cette initiative, d'identifier quelles seront les thématiques importantes dans l'espace, quelles seront les thématiques importantes dans le stockage énergétique, quelles seront les thématiques importantes dans la santé, des thématiques où aujourd'hui aucune start-up n'investit parce que c'est trop risqué, mais où, si on ne le prépare pas aujourd'hui, ben ça sera nos amis chinois ou nos américains qui vont arriver avec des innovations tellement phénoménales que on sera bien obligé de les adopter. Et aujourd'hui, regardez les plateformes, personne n'est forcé à les utiliser, mais aujourd'hui on est tous accros, mais au prix de combien de coups de canif sur notre vie privée et sur notre libre arbitre.
Alors justement, vous parliez politique tout à l'heure. J'aimerais qu'on se pose quelques instants sur les intentions des empires numériques d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un projet politique ou finalement simplement recherche de profit ?
Je ne suis pas de ceux qui pensent que Google, Facebook ou Amazon, pour les citer, soient forcément l'empire du mal. Ce qui, par contre, m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, nos seules réponses par rapport à la puissance que ces entreprises ont acquise à la fois en termes financiers, en termes de capitalisation boursière, de capacité d'investissement, mais également d'influence sur les processus politiques, et bien que notre seule réponse aujourd'hui, c'est soit de les taxer, évidemment, il faut le faire, ne soyons pas naïfs, soit de les sermonner en leur demandant de veiller à ce qu'il n'y ait pas de contenu haineux, d'apologie du terrorisme, etc. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train, en fait, de déléguer un des éléments centraux de ce qui fait la souveraineté d'un pays ou d'une entité politique comme l'Union européenne à des acteurs privés. Ça m'inquiète. Donc il faut absolument que sur des sujets clés comme justement la qualité du débat public, je veux dire la qualité du débat public, quand on y réfléchit bien, c'est quand même l'essence de nos démocraties, la capacité d'échanger, d'avoir un débat contradictoire, d'avoir des opinions diverses et ensuite de s'accorder en fonction de la majorité. Aujourd'hui, déléguer ça à Facebook ou à Google me semble être d'une naïveté phénoménale. Et il faut absolument que ça, on se le réapproprie. Mais pour se le réapproprier, ça veut dire qu'il faut se fixer des priorités. Pour revenir à votre exemple canadien, moi, ce que j'espère, c'est que l'Europe, avec les milliards qu'elle investit dans la recherche et le développement, identifie les quelques dizaines de sujets sur lesquels, réellement, on ne peut pas se permettre de ne pas être leader. Et ils mettent en œuvre une méthodologie très différente de ce qu'on fait aujourd'hui. Je caricature un peu, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On répartit ces sommes sur des grands consortiums parce qu'on souhaite également faire, et c'est légitime politiquement, de l'aménagement du territoire européen. Non, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que sur ces sujets de technologie, on se concentre sur un seul critère qui est l'excellence technologique. Et c'est la seule manière dont on va à nouveau remotiver les meilleurs chercheurs, les meilleurs entrepreneurs, à ne pas penser que l'herbe est plus verte à Menlo Park, dans la Silicon Valley ou en Chine, mais à le faire chez nous. Et aujourd'hui, la plupart des entrepreneurs auxquels vous parlez, ils sentent bien que les valeurs européennes sont des valeurs qui les attirent. Les valeurs de vie privée, les valeurs de préservation de l'environnement. Mais il ne faut pas qu'on s'arrête au constat et aux valeurs, il faut qu'on le mette en œuvre. Et c'est tout l'objectif de JEDI.
Valeurs européennes, la question qui se pose, est-ce qu'elles ne sont pas devenues ringardes? C'est le risque de tout ce que vous évoquez depuis le début. J'ai cette question en reprenant...
Si je peux me permettre, là, sur ce point-là, regardez sur l'environnement. On a été extrêmement en avance. Regardez sur la vie privée. Je vais vous donner une anecdote. À Washington, je vous disais que j'étais là la semaine dernière. Vous arrivez dans la gare centrale. J'arrive de New York en train. La gare centrale, elle est aujourd'hui couverte d'une immense publicité de Google. Et je ne veux pas en faire la pub justement, qui doit faire une centaine de mètres, enfin c'est dans l'énorme hall, où Google affirme notre priorité centrale, c'est votre vie privée. Donc en fait, on se rend compte aujourd'hui que nous avons mis le doigt sur le sujet essentiel de demain. Ne laissons pas ceux pour qui c'est probablement pas le cœur de leur modèle économique s'en emparer. Constituons des géants du numérique qui justement en font un élément central de leur technologie. Mais ne restons surtout pas à l'échelle franco-française. C'est très bien de faire des choses au niveau de la French Tech ou autre, mais ça n'a pas l'échelle. Aujourd'hui, la seule chose qui compte dans ce monde digital, c'est l'échelle. Et on a ce marché européen. Mettons-le en œuvre.
Ça peut être votre conclusion, André Lezecrouc-Pietri?
Moi, la conclusion, c'est que on a un petit peu ce sentiment en Europe que la bataille est perdue. On l'entend matin, midi et soir, les plateformes ont pris le contrôle, etc. Je m'inscris complètement en faux là-dessus. On vit au contraire un monde, et les Chinois nous le montrent, où les cartes peuvent être rebattues en permanence. Nous avons les talents, nous avons la taille du marché. Je crois qu'on a certains dirigeants politiques en Europe, à commencer en France, qui l'ont compris. Maintenant, ce qu'il faut, c'est ne pas rester aux déclarations et à la prise de conscience, qui est déjà très importante. Il faut le mettre en œuvre. Quand je vois qu'aujourd'hui, les Allemands créent leur agence d'innovation de rupture dans leur coin, les Français... On dit qu'on veut faire européen, on le met en œuvre. Donc ça dépend de nous, et c'est pour ça que moi, ma conclusion, c'est que je suis optimiste, mais pour ça, il faut radicalement changer nos méthodes.
Merci André Lezecrouc-Pietri. Je rappelle que vous êtes directeur de la Joint European Disruptive Initiative, qui est un collectif européen qui ambitionne, on l'a compris, de transformer l'Europe en un leader de l'innovation de rupture à l'égal des États-Unis et de la Chine. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Nathalie Laporte et Véronique Deron. Demain, nous parlerons toujours technologie et nous évoquerons ces guerres qui se déroulent dans le cyberespace. À demain.